Je vous lis dans 2 Timothée 4, 6 à 8. Donc c'est Paul qui dit: pour moi, voici que je suis déjà offert en libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Dès maintenant m'est réservée la couronne de justice, qu'en retour me donnera le Seigneur en ce jour-là, lui le juste juge. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation.
Le deuxième texte est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Elle demande une petite introduction. Dans les chapitres 10, 11, 12 et 13 de cette épître, Paul répond aux Corinthiens qui se mettent à contester son ministère et son autorité. Il se fait du souci pour eux. Il leur a annoncé l'évangile de Jésus dans sa simplicité et il a peur qu'ils ne reçoivent un autre évangile avec un autre esprit. À voir les arguments qu'il développe, j'ai l'impression que Paul pense que les Corinthiens sont en train de se faire berner par un super apôtre qui leur en met plein la vue. Alors que lui, Paul, s'il ne s'est vanté de rien, c'est parce qu'il désire attirer l'attention sur Jésus et non sur sa personne. Lui aussi a reçu des révélations. Ce n'est pas elle qu'il met en avant. Il n'a pas besoin de la reconnaissance qu'elle pourrait lui donner. Elles sont son moteur, parce qu'elles l'ont établi dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit et dans ce qu'il pense et enseigne. S'il met toutes ses capacités dans sa mission, il ne désire pas occuper le devant de la scène. Le devant de la scène revient à Jésus. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, les versets 7 à 10. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc, je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer à l'entrée. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. Alors nous voici donc à 4 jours de la fin de l'année. Alors je me suis demandé comment on pourrait mesurer ce que cela représente, 4 jours avant la fin de l'année. Alors si j'étais un professionnel du bois, j'aurais sorti mon double mètre. Mais comme j'ai une formation technique, en somme, j'ai sorti ma calculette. Alors, nous voulons savoir à quel point nous en sommes par rapport à la fin de l'année. Or, 4 jours, ça représente 1,1% de l'année. À peine plus qu'un pour cent. Alors que ceux qui n'auraient pas encore rempli leurs objectifs de 2009 en prennent bien note. En fait, dans les entreprises, c'est très à la mode en fin d'année de comparer les résultats avec les objectifs, ces objectifs qui ont été fixés au début de l'année. Comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai connu ce genre d'exercice dans ma vie professionnelle. Et je dois dire que, oui, ce n'est pas toujours agréable, mais enfin, cette idée de faire un bilan d'une période d'activité, en fait, cette idée-là, elle n'est pas étrangère à la Bible. Alors, lorsqu'on a préparé ce culte avec Erna et Denise, Erna a exprimé le désir de partager ce matin son bilan de l'année 2009. Alors dans ce but, je lui laisse maintenant la parole.
Alors voilà mon bilan de cette année. Je peux que vous dire que le Seigneur m'a béni, malgré que je me suis petit à petit éloignée de lui. En effet, depuis ma retraite, début de cette année, je profitais de ma liberté, des vacances qui durent. Pas besoin de me lever tôt le matin, la belle vie, quoi. Bien occupée par des voyages et mes petits-enfants, je prenais plus beaucoup de temps pour lire ma Bible. Mes moments de prière sont devenus souvent un peu superficiels. Mes pensées s'évadaient à tout moment et il m'arrivait même des fois d'oublier que j'étais en train de prier en me levant de ma chaise pour faire autre chose. Et fin d'automne, je me suis rendu compte que je m'éloignais petit à petit du Seigneur. J'ai ressenti un vide en moi et une soif de retrouver le premier amour du Seigneur. J'aimerais que lui soit mon guide pour toujours. C'est lui qui a les plans pour ma vie. Je désire de lui laisser toute la place pour agir comme il lui plaît. Je me suis repentie d'une foi sincère. Pardonne-moi, Seigneur. J'aimerais te mettre tout à nouveau à la première place dans ma vie. Rends-moi fidèle, aide-moi à persévérer. Le résultat, j'arrivais à prier sans être distraite. Je sens tout à nouveau sa paix et sa présence en moi. Et ce verset dans Apocalypse 3, 10 à 11 me parle beaucoup. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Alors merci à Hernan de ce partage, la confiance qu'elle nous témoigne en nous partageant ce qu'elle a vécu cette année. Tout à l'heure, je disais que l'idée de faire un bilan correspondant à une étape de notre vie, de s'arrêter pour comparer les résultats, les objectifs, cette idée n'est pas étrangère à la Bible. Alors, je veux juste en citer deux exemples. Dieu lui-même a dressé un bilan de son activité créatrice. Après avoir créé la terre, il a créé les animaux. Et le récit de la Genèse précise, au premier chapitre, verset 25, « Dieu vit que cela était bon. » Cette parole est un bilan. En l'occurrence, un constat de réussite. Et si l'on pense aux lettres adressées aux églises au début de l'Apocalypse, les premiers chapitres de l'Apocalypse, eh bien on a là aussi des bilans. Des bilans dans lesquels on souligne, Dieu souligne, les points forts, les points faibles de chaque église. Donc des bilans, cette fois, un peu en demi-teinte. Alors ces exemples illustrent la légitimité d'un bilan. Un bilan comportant les points forts et les points faibles peut être très utile pour nous encourager et pour nous motiver pour, en vue de la période à venir. S'arrêter pour faire le point, c'est un peu comme le coup d'œil dans le rétroviseur de la voiture. Ce coup d'œil est important, il peut même être salutaire à certaines occasions. En tous les cas, il permet de mieux se diriger vers l'avant. Alors ce matin, je vous propose, l'on s'arrête quelques instants, au bilan de l'apôtre Paul. ce bilan qui a été lu tout à l'heure, et je demanderai à Raymond de nous le passer. Voilà, il est à l'écran, ce qui a été lu tout à l'heure. Alors Paul écrit là à Timothée. Et vous pouvez lire, l'apôtre offert en libation. Je vais faire quelques remarques sur le texte lui-même d'abord. En faire en libation, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans les sacrifices anciens, la libation, c'était du vin ou de l'huile versée sur l'agneau, sur l'animal qui était sacrifié. Et cela, naturellement, exhalait une odeur forte. D'où l'expression des sacrifices de bonne odeur, qui signifie que les sacrifices sont agréables et acceptés par Dieu. C'est les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Mais dès l'ère chrétienne, le seul sacrifice qui est à un sens est naturellement celui du Christ. Et la seule libation qui exhale une bonne odeur pour Dieu, ce sont les croyants amenés à Dieu grâce au sacrifice du Christ. On comprend donc que le désir de Paul, à la veille de sa mort, d'être une libation. Offert en libation, c'est toute l'existence de Paul qui se trouve ainsi éclairée de son jour véritable et qui prend sa vraie signification. On a rappelé tout à l'heure comment cette vie chrétienne a commencé, mais ensuite, on sait comment Paul a aussi servi. Et on est loin de l'énumération des succès, voire des flatteries, qu'on adresse à quelqu'un qui prend sa retraite. On connaît aussi ce genre de propos. Et la déclaration de Paul atteste au contraire la réalité du combat qu'il a mené et de la foi qu'il a gardée. J'ai combattu le beau combat, je souligne ce mot beau parce que je le trouve beau, et je le trouve meilleur, c'est dans la Tobe, c'est la version de la Tobe, meilleur que le bon combat. Il est bon aussi, mais je trouve qu'un beau combat est quelque chose de plus encourageant que bon combat. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Trois petites phrases de l'apôtre pour décrire la situation dans laquelle il se trouve tout près de sa mort. Alors nous y reviendrons tout à l'heure, mais pour l'instant, disons simplement qu'on sent ici l'apôtre lucide quant à sa situation. N'oublions pas que là, il était en prison à Rome, et pour dans la deuxième période d'emprisonnement qu'il a vécu à Rome, et il est prêt à s'en aller, et même désireux de rejoindre le Christ. Quant à l'image de la couronne de justice, c'est une allusion, bien sûr, à la couronne promise au vainqueur d'une course sportive. Alors cette comparaison pourrait laisser penser qu'il y a une relation de cause à effet entre la fidélité de l'apôtre au cours de sa vie terrestre et la fidélité du Seigneur qui promet la vie éternelle. Mais c'est vrai qu'il y a une relation entre le combat de la foi dans notre vie terrestre et cette couronne réservée au vainqueur dans la vie à venir. Mais cette relation n'est pas fondée sur les mérites du croyant, elle est fondée, elle ne peut être fondée que sur les mérites du Christ. C'est lui qui est ressuscité pour notre justification. En effet, l'Évangile nous révèle la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette justice-là que Paul attend comme si, en quelque sorte, elle lui était mise de côté, réservée pour le moment où il rencontrera le Seigneur. Et enfin, l'apôtre attend donc avec assurance la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, lui donnera. Cette assurance n'est pas fondée sur les mérites que Paul a eus au cours de son combat, au cours de sa vie, mais sur la promesse de justice qui est en Jésus-Christ. Si par ailleurs Paul peut considérer la mort comme un gain, c'est ce qu'il écrit aux Philippiens, c'est parce que Christ a détruit la mort et mis en lumière l'immortalité par l'Évangile. Enfin, Paul affirme que cette couronne de vie est réservée à tous ceux qui auront aimé le Seigneur. promesse pour tous ceux qui auront placé l'amour de leur Seigneur au-dessus de l'amour de tout ce qu'on vit dans notre vie terrestre. Revenons maintenant au verset 7 du texte de Timothée. « J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » C'est bien un résumé, un bilan que Paul établit de sa vie, au moment où il sait que son départ est proche. Alors, je vous propose d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce bilan, derrière ces trois petites phrases. On sait que Paul, dans une vision, le texte a été lu tout à l'heure, dans une vision, a reçu de Dieu des révélations extraordinaires. Alors, il ne s'agit pas de l'épisode de la route de Damas, c'est dans une autre occasion que Paul fut en quelque sorte enlevé au paradis, qu'il entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Alors on peut mettre maintenant le deuxième texte aussi à l'écran, ce qui a été lu. Alors il n'est pas permis à l'homme de redire ce qu'il a vécu lorsqu'il a été enlevé. Et on n'en saura pas plus sur le contenu de ces révélations. Mais un peu plus loin, l'apôtre raconte ce qu'il lui en a coûté d'être le dépositaire de ces révélations. Paul a eu des révélations extraordinaires, il les mentionne ici, et dans son zèle pour annoncer l'Évangile aux Juifs, eh bien, il rencontre une forte opposition. Et en fait, ce passage, comme l'a souligné Denise tout à l'heure, ce passage est une réponse qu'il adresse à ses détracteurs. Parce que ses détracteurs disaient, entre autres, « Oui, ces lettres, dit-on, ont du poids et de la force. Mais une fois présent, il est faible et sa parole est nulle. Il est faible et sa parole est nulle. » C'est dans le chapitre 10 de 2 Corinthiens, verset 10. Paul est donc conscient que l'excellence des révélations qu'il a eues pourrait le mettre en danger d'orgueil. Il le précise très, très clairement ici. Il comprend donc que l'écharde mise dans sa chair et les soufflets de l'ange de Satan sont là pour le protéger de céder à l'orgueil. On ne sait pas exactement ce qu'était cette écharde dans sa chair. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été avancées par les meilleurs spécialistes du Nouveau Testament, sans qu'aucune ne soit jamais imposée. Toutefois, il paraît clair qu'il s'agissait d'un problème physique. Quant au soufflet de l'ange de Satan, ils font penser plus à une souffrance morale. Mais là encore, les exégètes ne sont jamais arrivés à conclure. On ne sait même pas si Paul souffrait d'un handicap qui aurait eu des conséquences et physiques et morales, ou s'il s'agissait de deux handicaps distincts. Mais ce que l'on sait, c'est que tout cela était pour lui très lourd à porter et assez grave, puisque ses détracteurs disaient que sa parole est nulle, en tout cas il devait avoir de la peine à s'exprimer, et aussi par la raison qu'à trois reprises, il a crié à Dieu pour être délivré de ce handicap. Sans succès. Et cette situation fait naturellement penser à Jésus, méprisé par ceux à qui il annonçait le salut, crucifié et criant également à trois reprises à son Père de le délivrer de ce supplice. Alors, je vais essayer de tirer de ces textes de Paul des remarques qu'on vient de faire, ce que l'on pourrait appeler des clés pour nos bilans, lorsque nous-mêmes nous voulons établir un bilan. Alors là, j'en mentionnerai quatre. Premièrement, Paul est conscient de sa fragilité, il a vraiment conscience que sa connaissance exceptionnelle pouvait le rendre vaniteux. Il reconnaît qu'il a besoin d'être protégé de l'orgueil. Et c'est là une attitude d'humilité, reconnaissant que la véritable humilité est toujours difficile à atteindre. Et là, je vous avoue que je n'ai pas de truc pour vous dire si votre humilité est authentique ou pas. Premièrement, parce que je n'ai pas à juger votre humilité, c'est de la mienne que je dois juger, essayer de me rendre compte. Et même, c'est difficile d'être objectif lorsqu'on veut parler de soi-même ou s'analyser soi-même. Et comme disait quelqu'un, l'humilité est la plus grande des vertus, grâce à Dieu je la possède. Oui, je crois donc que si l'on veut que notre bilan soit correct, seule une humilité authentique devant Dieu permettra d'éviter les traquenards de l'orgueil. En second lieu, j'aimerais mentionner notre manière d'interpréter les réponses de Dieu à nos prières. Très souvent, nous avons une idée préconçue de la réponse que l'on attend, de la réponse attendue à nos prières, que l'on attend de Dieu. Et si l'on veut éviter de prendre nos désirs pour des réalités, il nous faut, outre l'humilité, il nous faut une grande confiance envers Dieu, savoir que souvent Dieu répond autrement que ce qu'on avait demandé, et parfois il nous faut aussi de la patience, je dirais même des fois beaucoup de patience. Troisièmement, je crois qu'il est important de souligner dans le texte qui est là que Paul ne dit pas de la réponse qu'il a reçue. Il ne dit pas « sa grâce m'a suffi »,« sa grâce me suffit », parce que s'il disait « sa grâce me suffit », ça voudrait dire que ça aurait signifié que la réponse, cette réponse, relevait de sa propre compétence. C'est-à-dire que Paul se serait lui-même senti assez fort par lui-même, assez fort pour assumer son handicap. Quelqu'un qui assume son handicap et qui peut dire « bon, sa grâce me suffit eh », ben, c'est la personne forte. Or, en répétant, alors dans cette formule, il aurait cessé d'être le faible. Mais en répétant la réponse de Dieu telle qu'il l'a entendue, c'est-à-dire « mais il m'a dit », donc Dieu m'a dit « ma grâce te suffit », c'est Dieu qui le déclare. C'est Dieu qui le dit. Et l'apôtre signifie par là qu'il accepte la souveraineté de Dieu et reste dans lui-même dans sa faiblesse humaine. Cette faiblesse, à l'instar de celle de Jésus à la croix, laissera la place à la puissance du Christ. La vraie faiblesse de Paul, celle de reproduire celle du Christ. Alors, dans le bilan que je fais de ma situation, il faut que je me pose cette question, est-ce que je suis prêt à entendre Dieu me dire, dans sa souveraineté, ma grâce te suffit, pour toute réponse à nos prières. Enfin, c'est aussi par le partage, c'est le quatrième élément que je voulais relever, par le partage de nos préoccupations dans l'Église, comme Paul l'a fait avec Timothée, il l'a fait avec l'Église de Corinthe, dans ce partage qu'est l'encouragement à la fidélité au service du Christ. C'est un ministère que nous avons tous, dans la communauté, d'avoir des paroles d'encouragement les uns pour les autres, d'avoir un accueil ouvert, fraternel. L'accueil, c'est l'opposé de l'indifférence, c'est l'opposé du rejet. Un ministère au service des autres, sans attendre l'appareil en retour. Et chaque fois que nous nous sentons incapables, rappelons-nous que c'est dans la faiblesse, dans nos faiblesses, que la puissance du Christ trouve sa place. Alors voilà, pour conclure, je me suis posé la question, comment tirer un bilan de notre année qui se termine? Bien sûr, cette réflexion de ce matin n'a pas exclusivement lié au passage de 2009 à 2010. Vous l'aurez bien compris, elle peut se rapporter à toute autre étape de notre vie, étape qui serait marquée par les événements de notre vécu personnel, notre vécu familial, professionnel ou autre. Et il me semble utile de préciser aussi ce qu'un bilan ne doit pas être. Alors je crois que le bilan ne doit pas être une réflexion qui nous déprime parce que nous ne serions plus capable de voir qu'une accumulation d'échecs. À l'opposé, dire que le bilan ne doit pas être non plus une source d'orgueil parce que nous ne serions pas prêts à reconnaître autre chose que des succès. Alors visons le juste milieu, c'est-à-dire gardant à l'esprit que l'important, dans les réussites comme dans les échecs, l'important, c'est la gloire de Dieu manifestée dans nos vies. La gloire de Dieu manifestée par nos vies en toute humilité. C'est finalement à cela que doit conduire un bilan. Enfin, que l'on dispose d'un double mètre ou d'une calculette, ça n'a pas d'importance. L'essentiel n'est pas de respecter une échéance précise. Il faut au contraire que ce soit pour nous une attitude un peu permanente de laisser Dieu agir dans la faiblesse de nos vies. Ainsi et ainsi seulement, la puissance de Dieu reposera sur nous. Et nous pouvons retenir cette parole de Dieu, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est promis. Amen.